Une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
On va juguler les réajustements périodiques du cash flow.
Attendez, j'y comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
Un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI à 0,16 TTC proposés par le CNBA à la SPJC. Je dis foncez, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Je suis Étienne Tabag, professeur d'économie à Marseille, et deux fois par mois, je m'attaque franco avec vous à des questions économiques qui dérangent. Ici, pas de théorie fumeuse, on part à la rencontre des individus qui font l'économie contemporaine. Bref, cette émission, c'est comme la CMA-CGM à Marseille. Ce n'est pas le plus sexy, mais c'est du lourd. Et avec moi au micro, Laurine. Bonjour Laurine.
Bonjour Étienne, ravie de te retrouver. Mais dis-moi, c'est quoi ce sigle CMA-CGM ?
CMA-CGM. Alors un peu de patience, je ne vais pas expliquer tout de suite ce que c'est, car on va retrouver la CMA-CGM au cours de cet épisode, tu vas voir. C'est même un élément clé de l'enquête.
Et tu as mené l'enquête sur quoi ce mois-ci ?
Alors c'est un sujet qui m'a été suggéré par un podcasteur en la personne de Kevin Donna, animateur du très bon podcast Le Chip.
Le Chip ?
Le Chip. Vous écoutez.
Le Chip. Vous écoutez.
Le podcast afro.
Quoi ? Comme.
Et Kevin s'est prêté au jeu pour poser directement la question.
Pourquoi les prix sont-ils si élevés dans les Outre-mer ?
C'est un sujet qui n'est pas beaucoup traité dans l'actualité de la métropole, sauf lorsqu'il y a de grands mouvements sociaux, comme en Guadeloupe et en Martinique en 2009, ou encore très récemment en Guyane et à Mayotte en 2017, où là, les médias métropolitains en parlent enfin.
Ils sont des milliers dans les rues de Cayenne.
Historique, une véritable marée noire. Il n'y a pas d'autre mot pour qualifier la mobilisation de ce matin dans les rues de Cayenne.
À l'appel des différents collectifs, 10 000 personnes ont défilé dans la ville pour rejoindre la place Léopold-Hédère.
Toutes origines ensemble pour montrer leur adhésion au conflit. Un conflit sans précédent qui paralyse depuis 8 jours la Guyane.
Alors juste un petit point de vocabulaire. On a l'habitude de parler des dom-toms pour désigner ces territoires, ce qui veut dire département d'outre-mer et territoire d'outre-mer. Cet acronyme est resté dans le langage courant, mais il faut savoir qu'une réforme en 2003 a changé le statut de ces territoires, puisque ce sont désormais des DROM, des départements et régions d'outre-mer, ou encore des COM, des collectivités d'outre-mer. Ce changement de statut s'est évidemment accompagné de nouvelles responsabilités et prérogatives pour les pouvoirs publics locaux. Moi, dans cet épisode, je parlerai tout simplement de l'outre-mer pour éviter d'utiliser ces acronymes à tout bout de champ. Et l'une des caractéristiques que partagent tous ces territoires de l'outre-mer, c'est d'avoir des prix plus élevés qu'en métropole. Les chiffres sont sans appel. Je suis allé à Montrouge, dans les locaux tout neufs de l'INSEE, c'est-à-dire l'Institut National des Statistiques et des Études Économiques, pour rencontrer Pascal Chevalier. Il est le responsable de l'unité consommation à l'INSEE, unité en charge, entre autres, de relever les prix sur tous les territoires français. Et il nous fait le bilan chiffré de la dernière grande enquête qui date de 2015.
Les grands résultats qui ressortent de cette dernière comparaison spatiale de prix, c'est qu'il existe encore évidemment des écarts dans les niveaux de prix entre les DOM et la métropole. Alors si on s'appuie sur la base du panier de consommation type d'aménage métropolitain, qu'on regarde, qu'on le valorise dans un DOM, dans les différents DOM, ce qu'on obtient sont des écarts de prix qui vont de 10 à 20%, hein, pour faire simple. Donc le coût du panier du ménage type métropolitain est entre 10 et 20% plus cher dans un DOM par rapport à ce qu'il est en métropole.
Si t'as de mom, comment tu vas faire ? La vie est chère pour avoir ce qui te manque, tout t'aime les pères.
Juste pour expliquer la méthode utilisée par l'INSEE pour en arriver à ce résultat, elle repose sur deux types d'enquêtes. La première consiste à déterminer ce qu'on appelle le panier de consommation d'un ménage. Alors comment on fait ? C'est assez simple. L'INSEE mène chaque année des enquêtes appelées « budget des ménages » dans lesquelles les enquêteurs demandent à chaque ménage de détailler précisément tous leurs achats pendant une période donnée. Ça permet de savoir en moyenne combien un Français dépense pour l'alimentaire, pour la santé, pour les transports, pour les loisirs, etc. Et c'est ce qu'on appelle un panier de consommation. Par exemple, dans ce panier, un ménage français dépense environ 13% de son budget pour les transports en 2014, selon les tableaux de l'économie française de l'INSEE. Et ensuite, deuxième enquête, les agents de l'INSEE font des relevés de prix. Là aussi, c'est très simple. Ils vont dans des magasins, des commerces, des grandes surfaces et notent l'évolution des prix produit par produit.
Mais attends, est-ce qu'ils consomment forcément la même chose en Outre-mer ?
Alors effectivement, on observe des différences de consommation entre la métropole et l'Outre-mer. Par exemple, un ménage d'outre-mer dépense plus en produits de la mer, en produits tropicaux ou en vêtements légers, bon, ce qui n'a rien d'étonnant évidemment. Il dépense également un peu moins en moyenne en restaurant ou en services sportifs. Donc, on peut regarder les écarts de prix dans ces deux cas, avec un panier de consommation métropolitain et avec un panier de consommation ultramarin. Imaginez, vous êtes un ménage métropolitain et vous vous installez en outre-mer. Vous conservez vos habitudes de consommation antérieures. Alors dans ce cas, votre panier coûte 17% en plus si vous déménagez en Martinique ou en Guadeloupe. Et 10% en plus si vous vous installez à La Réunion. Tout ça parce que les prix sont plus élevés. Autre cas de figure, si vous êtes un ménage ultramarin et vous venez en métropole tout en conservant vos habitudes anciennes de consommation, alors ça vous coûte 7% en moins si vous venez par exemple des Antilles françaises.
Mais qu'est-ce qui se passe là ? Les gens, ils achètent plus ou quoi ?
Ils achètent plus, je comprends pas, ça doit être la crise.
Ça, c'est la crise.
Donc en gros, c'est plus cher en Outre-mer qu'en métropole, quelle que soit la méthode.
Oui.
Mais il y a bien des produits qui échappent à la règle.
Alors c'est vrai que ces prix plus élevés se concentrent sur quelques postes de consommation en particulier, comme nous l'explique Pascal Chevalier.
Ce qu'on constate, c'est que là où les écarts sont les plus élevés, sont d'abord dans l'alimentaire, avec des écarts de prix très forts, là, pour le coup, entre le panier de, quand on prend le panier du ménage métropolitain type, qu'on le valorise sur sa partie alimentaire dans les DOM, on a des écarts de prix qui vont de plus 40 à plus 50%, hein, donc des gros écarts. Donc, un point important sur l'alimentaire, des gros écarts de prix sur l'alimentaire. Et puis également, le poste le plus concerné après l'alimentaire, ça va être la communication, hein, avec là aussi des écarts de prix quand on s'intéresse au panier de consommation métropolitain, qui vont de plus 20 à plus 40%, hein, donc des gros écarts aux Antilles-Guyane essentiellement, le plus 20% étant La Réunion, donc un écart de prix un peu plus faible à La Réunion. Et donc, derrière la communication, hein, les écarts de prix sont assez ciblés sur tout ce qui est téléphonie mobile et Internet, avec des écarts de prix qui peuvent monter jusqu'à plus de 60% en Guyane en particulier.
Ah oui, pour une cagette de mandarine, on prend le chèque, hein.
Ah oui.
Ou les hypothèques de maison.
Oui, oui.
Tout ça est loin d'être anodin, car les inégalités de revenus entre les plus riches et les plus pauvres sont très marquées en Outre-mer, comme le note Pascal Chevalier.
Avec des populations donc qui sont plus de populations à bas revenus, donc une population plus importante avec des niveaux de vie faibles, et puis une certaine concentration aussi des richesses dans le haut de la distribution des revenus, et donc au final des inégalités assez fortes. Alors après, évidemment, en termes de pouvoir d'achat, ça va se traduire par des modes de consommation qui sont différents. Et on voit bien que dans le budget consommation d'un ménage, les ménages les plus modestes consacrent une part plus importante de leur consommation à l'alimentaire. Et donc, l'alimentaire, on voit qu'il y a des écarts de prix élevés, hein, par rapport à ce qu'on a au niveau métropole. Donc effectivement, ça renforce un peu le phénomène de difficulté de ces populations.
Quand on regarde dans le détail, ce sont les ménages les plus modestes qui souffrent le plus de cette situation. Ce n'est pas une surprise, mais les statistiques sont formelles sur ce point-là.
Moi, je me souviens quand j'étais en vacances en Guadeloupe, le prix des yaourts m'avait halluciné. Mais du coup, pourquoi ces écarts dans l'alimentaire ? C'est parce qu'ils doivent tout importer, c'est ça, non ?
Alors effectivement, ça joue. Comme tout n'est pas produit sur place, il faut importer un certain nombre de biens et ça entraîne des coûts d'acheminement. Et c'est vrai que l'exemple des yaourts revient toujours. Ça marque énormément les gens qui se rendent en Outre-mer. Alors juste pour expliquer cet exemple. Imaginez des yaourts produits en métropole et acheminés ensuite en Outre-mer. Ça nécessite quelques précautions car il faut respecter 1. La chaîne du froid et 2. Les dates de péremption. En gros, il faut transporter tout ça dans des avions adaptés, ce qui représente un surcoût très important. Et ce n'est pas tout. Ce processus nécessite l'existence d'un intermédiaire en plus dans la chaîne de livraison, ce sont les grossistes. En métropole, un yaourt peut être directement acheminé depuis une usine à un magasin. Mais en Outre-mer, on passe très souvent par des grossistes qui regroupent les achats et livraisons de différents produits importés pour ensuite les disséminer dans les magasins du territoire.
Et j'imagine que le grossiste prend une commission au passage.
Comment dire, mes amis trouvent la note un peu salée.
Quoi ? Ne trouvez-vous pas un peu excessif de prendre 50% à vous seul ?
Ah, messieurs, mettons-nous bien d'accord une fois pour toutes. Je n'ai pas l'habitude d'apporter mon concours dans les fêtes de charité. J'ai des exigences, vous êtes libres de les accepter ou non.
Mais il n'y a pas des produits importés depuis des territoires plus proches? Par exemple, des produits importés en Guadeloupe et en Martinique depuis les Caraïbes. Parce que là, tu ne prends que le cas où les biens viennent de métropole, ce qui fait effectivement de très longues distances.
C'est une bonne remarque, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonné en faisant mes recherches, c'est que le commerce ultramarin avec des territoires qui leur sont immédiatement voisins est très marginal. Pour reprendre ton exemple de la Martinique, selon les douanes, seuls 0,8% des biens importés en Martinique viennent des Caraïbes. C'est presque rien, comparé aux 70% des biens importés venant de métropole. Ça s'explique évidemment par l'histoire coloniale qui a fortement marqué les réseaux commerciaux de ces territoires. Et c'est difficile maintenant de faire autrement, à cause des normes de production. Par exemple, les normes européennes qui s'imposent à l'île de la Réunion n'ont pas grand-chose à voir avec les normes de production de Madagascar. Donc les entreprises malgaches vendent très peu à la Réunion. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que même des biens produits sur place en Outre-mer sont parfois plus chers que des biens métropolitains vendus en métropole. Alors pourquoi ? Parce que ces territoires représentent des marchés de petite taille, comme nous l'explique Pascal Chevalier.
L'étroitesse des marchés, ça va aussi avoir un effet sur ce qui peut être produit au niveau local. On voit bien qu'une entreprise, si elle veut produire un bien à La Réunion, elle a un marché intérieur qui est limité, une population donc moins importante, des revenus moins importants, donc une capacité à consommer moins importante. Donc elle va avoir du mal à atteindre la taille optimale de production qui va lui permettre d'optimiser un petit peu ses moyens de production. Donc du coup, elle peut pas vendre à des tarifs aussi intéressants que ce qu'on a en métropole où la quantité permet d'utiliser les moyens de production à des niveaux plus importants, de les optimiser et donc d'avoir des prix plus intéressants.
En économie, on appelle ce phénomène les rendements d'échelle. Plus votre échelle de production est importante, plus vos coûts de production unitaire sont faibles. Alors dit comme ça, ça paraît compliqué, mais c'est tout simple. Si vous avez de plus en plus de clients, il va falloir augmenter votre volume de production. Donc d'une part, vous achetez des machines plus modernes et plus efficaces. D'autre part, vous embauchez davantage de salariés et vous utilisez une division du travail plus intelligente pour répartir le travail. Globalement, votre production est plus efficace, ce qui fait que produire une unité, c'est-à-dire un seul bien, ça vous coûte en moyenne moins cher avec un gros volume de production. Donc, si ça vous coûte moins cher, vous pouvez ensuite baisser vos prix. Sauf que les territoires d'outre-mer sont de petits territoires. Dans ces conditions, c'est impossible de diminuer les prix.
D'accord, pour l'instant, tu mets surtout en avant des notions économiques, comme les marchés étroits, les rendements d'échelle ou les coûts d'acheminement. Mais il n'y a pas une raison plus politique, comme la surrémunération des agents publics, par exemple ?
C'est vrai qu'on en a entendu parler ces derniers temps, avec la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012, ou encore la campagne de Jean-Luc Mélenchon, ou même celle d'Emmanuel Macron en 2017.
C'est un serpent de mer dans les finances publiques, la suppression de l'indexation des fonctionnaires d'État.
Regardez la réalité des choses. Il y a beaucoup de fonctions qu'on donne à des fonctionnaires qui pourraient l'être par des gens qui ne le sont pas. Mmh. Et on garantit des emplois à vie parfois de manière indue, sans même passer par des concours.
Une nouvelle fois, la Cour des comptes le préconise dans son dernier rapport rendu au gouvernement. 3 800 000 fonctionnaires au total, 160 000 indexés en Outre-mer.
Donc c'est bon, on a trouvé la solution.
Alors, c'est difficile à dire. C'est vrai que les agents publics bénéficient depuis les années 50 d'un salaire 40% supérieur à un agent public métropolitain. On parle d'ailleurs plutôt de primes compensatoires. Mais les effets sur les prix sont complexes et ambigus. Écoutons les explications de Pascal Chevalier sur ce point.
La question de la surrémunération dans les DOM est un sujet très, très controversé. Il y a eu beaucoup d'études, mais que je sache, il n'y a pas une unanimité pour dire il y a tel ou tel effet de la surrémunération. Ce qu'on peut dire, c'est que la surrémunération dans l'économie, ça a des effets induits assez complexes. Donc il y a à la fois des effets bénéfiques et puis des effets moins bénéfiques. dans les effets bénéfiques, et c'était à l'origine l'objectif hein, de ces mesures de surrémunération, c'est qu'elle, évidemment, elle a d'abord pour effet de compenser le coût de la vie qui est plus élevé donc, dans, les, dans ces territoires, et puis également de favoriser un petit peu le... les solidarités familiales assez fortes hein, qui existent aujourd'hui dans les DOM, solidarité familiale et solidarité avec les proches, compte tenu des populations, enfin de l'importance des populations touchées par le chômage. Donc ces mesures au départ avaient, avaient cet objectif-là, à la fois compenser le niveau du le coût de la vie et puis également pouvoir favoriser un petit peu le, l'entraide entre personnes en difficulté. L'autre effet bénéfique, évidemment, c'est que c'est un facteur de relance de la consommation. Hein. Mais évidemment, à partir du moment où la dépense a bien lieu sur le territoire et pas sur un autre territoire. Donc ça, c'est pour tous les aspects un peu bénéfiques. En contrepartie, il y a évidemment des effets moins bénéfiques. Le premier, c'est d'abord que c'est un facteur quelque part d'injustice, hein, d'injustice sociale, puisqu'il y en a qui le touchent, il y en a d'autres qui ne le touchent pas. Et c'est un facteur qui a donc des effets induits sur d'autres secteurs que la fonction publique, parce que ça crée une tendance à la hausse sur les salaires de manière générale. Donc il y a tout un tas de secteurs proches du public qui ont des niveaux de salaire plus élevés dans les DOM que dans le que niveau métropolitain.
Si on résume, comme les salaires des fonctionnaires sont élevés, ça pousse les salariés du secteur privé à réclamer des rémunérations plus fortes, ce qui augmente les coûts de production et donc les prix. Oui, mais ces salaires soutiennent aussi la consommation sur ces territoires, ce qui crée des emplois et contribue au développement économique de ces territoires. Il n'y a pas d'unanimité des économistes sur ce sujet et surtout pas d'études définitives incriminant la surrémunération des agents publics comme la raison des prix élevés en Outre-mer. C'est plus prudent d'en revenir aux premières raisons que nous avons évoquées auparavant. Mais ce n'est pas suffisant. À ces raisons s'ajoute un facteur clé qui est plus difficile à percevoir, surtout quand on habite en métropole. Et pour bien comprendre ce facteur clé, j'ai appelé un économiste martiniquais par Skype. Alors les conditions d'enregistrement n'étaient pas optimales, car il y avait ce jour-là des ondes tropicales annonçant un orage en Martinique. Et je m'excuse pour la qualité du son qui n'est pas toujours bonne. Cet économiste s'appelle Michel Branchy. Il a été commissaire puis directeur de l'autorité de la concurrence et des prix en Martinique. Et il est désormais membre de l'Observatoire des prix, des marges et des revenus, et également conseiller territorial et même président de la commission des finances de la collectivité territoriale de la Martinique. Autant dire qu'il connaît bien le sujet. Et pour lui, une des raisons fondamentales des prix élevés en Outre-mer est la suivante.
Je vais citer le cabinet Syndex, qui est un cabinet d'études qui travaille pour le compte... des organisations syndicales, qui est connue d'ailleurs. Ils nous ont travaillé pour la CGT, pour la CFDT. Mais à la demande de la CFDT, ils ont fait une étude, plusieurs études dans les DOM, en Nouvelle-Calédonie en particulier, et à La Réunion et en Martinique. Pour la Martinique, en Guadeloupe, ils ont conclu que le taux, ce qu'on appelle le rapport entre l'excédent brut d'exploitation et la valeur ajoutée, c'est-à-dire ce que moi j'appelle le taux de profit, le taux de profit est notablement supérieur à la Martinique, à la Guadeloupe, par rapport à la France, et que ça expliquerait au moins pour 9 à 10% le niveau d'écart des prix entre les DOM, entre la Martinique, la Guadeloupe et la France. Ça, c'est un premier élément de formation. Autrement dit, en gros, l'existence d'une situation globalement non concurrentielle, globalement de l'économie, globalement, dans les grandes entreprises, en tout cas dans les grands secteurs, permet une surmarge.
Attends, traduction Étienne, tu peux nous expliquer ce qu'il vient de nous dire là ?
Avec plaisir. En fait, la concurrence est faible dans de très nombreux secteurs en Outre-mer, avec seulement une, deux ou trois entreprises dans le secteur. Et lorsque ce genre de situation survient, les prix sont souvent à la hausse. Comme les consommateurs n'ont pas le choix entre de nombreux produits, les quelques entreprises présentes en profitent pour augmenter les prix et s'octroyer des profits plus élevés. C'est ce que Michel Branchy appelle la surmarge. Et ce ne sont pas les exemples qui manquent quand on l'interroge.
On peut prendre le cas des yaourts. Vous avez les yaourts
lutter, qui prend beaucoup de licence d'un homme, et puis une autre marque, il y a deux marques, il y a Yoplait. Bon, ça c'est un oligopole. Bon, il y a des phases de concurrence, bien sûr, et puis il y a des phases d'alignement des prix. Or, les yaourts sont incroyablement plus chers à la distribution, je vous parlais de la production, mais à la distribution, ils sont beaucoup plus chers qu'en France.
Rien à branler, un yaourt qui change les idées.
Autre exemple très significatif, le fret maritime. Est-ce que tu sais, Laurine, quelle est la plus grande entreprise de fret maritime en France ?
Non, pas sûr.
La CMA-CGM, c'est-à-dire la Compagnie Maritime d'Affrètement et Compagnie Générale Maritime.
Ouais, alors là, t'es très fort. C'est le sigle que tu as évoqué en tout début d'épisode.
Ah, je te remercie. C'est ça. Et la CMA-CGM est la plus grande entreprise à Marseille. C'est le premier employeur privé de cette ville. La CMA-CGM est très bien implantée en Outre-mer, avec une position ultra dominante dans le fret maritime. Comme la concurrence est faible, elle peut se permettre de faire monter les prix. Les pouvoirs publics ont bien essayé d'engager des négociations avec de nombreuses entreprises pour leur demander de modérer leurs prix. Ça s'appelle les BQP, les boucliers qualité-prix. Certaines entreprises sont prêtes à faire des efforts, mais pas toutes.
On demande à tous ceux qui forment la chaîne de formation des prix de faire un effort sur leur marge. Eh bien, l'effort est fait par la distribution locale, ça c'est vrai, partie de l'effort. Une partie de l'effort est fait la compagnie générale maritime, CMA-CGM, pour lui donner son véritable nom, refuse parce qu'elle estime qu'elle n'a pas participé à l'effort de baisse des prix.
Du coquille, j'en ai, 5 rames, total 2 briques et cash.
Ah bah, ce blond-là, tu peux le garder puis en faire des cornets à frites.
Alors, pourquoi cette faible concurrence en Outre-mer ? Encore une fois, parce que ce sont des petits territoires. Difficile de venir concurrencer une entreprise déjà sur place et occupant un marché restreint. Mais c'est aussi en partie l'héritage de l'histoire coloniale. Restons en Martinique avec Michel Branchy, qui nous raconte l'histoire particulière des béquets sur cette île.
Les béquets sont les descendants des colons qui se sont installés en Martinique, en Guadeloupe principalement. Ils sont présents, beaucoup plus présents en Martinique qu'en Guadeloupe. Vous savez pourquoi ? C'est parce que en 1792, un certain Victor Hugues, commissaire de la Révolution française, a installé une guillotine à la place de la Victoire à Pointe-à-Pitre. Et il a coupé le cou de tous les béquets guadeloupéens. Et une partie d'entre eux se sont réfugiés en Martinique, et d'autres à la Barbade et à Trinidad.
Juste une précision. Si les béquets ont pu se réfugier en Martinique, c'est que ce territoire a échappé à la Révolution française pour la simple et bonne raison que ce territoire était britannique à l'époque.
D'où la particularité historique qui fait que les béquets sont beaucoup plus présents en Martinique, et les béquets qui sont en Guadeloupe sont souvent des béquets martiniquais. Alors, ils représentent à peu près aujourd'hui 2500 personnes, c'est-à-dire 0,6% de la population. Bien. Alors, c'est une minorité, c'est ce que les sociologues appellent une ethnoclasse, c'est-à-dire c'est une classe sociale, mais à caractère ethnique, un peu comme en Afrique du Sud, quoi.
Alors, on n'a pas de chiffres précis sur les possessions économiques des béquets aujourd'hui, car les statistiques ethniques ou racisées sont interdites en France. De la même façon qu'on ne peut pas récolter d'informations statistiques sur les Noirs en métropole, on ne peut pas récolter d'informations précises sur la minorité des béquets blancs en Martinique. On peut faire simplement quelques estimations à la louche, mais il faut rester très prudent. Notamment quand on essaye de mesurer leur présence dans l'économie qui a évolué ces dernières décennies.
Il y a une étude qui a été réalisé, je dois la citer parce que ce que je dis là, ce n'est pas mon travail, c'est M. Eddy Marajo, qui a été mon étudiant d'ailleurs à l'université, et qui publie une revue économique qui s'appelle Business News, de décembre de 2017, et qui a publié une petite étude intéressante d'ailleurs, je vous invite à l'acquérir, et il estime en gros. La conclusion principale de cette étude, c'est que les béquets représenteraient 11% du PIB de la Martinique, de la richesse globale, et 11% de l'emploi global. Bon. Et ils seraient concentrés principalement bien sûr, dans la banane, il représenterait 65% de la production de bananes. Il serait concentré encore, même dans ce qui reste de la canne à sucre, 40%. Il serait concentré dans les matériaux, la production de matériaux de construction et aussi le commerce d'importation de matériaux de construction.
Leur rôle économique a certes diminué, mais peser autour de 11% du PIB, alors que les béquets représentent environ 0,6% de la population locale, ça reste encore une concentration élevée de pouvoir économique. Notamment dans l'agroalimentaire, bananes, canne à sucre, grande distribution. Avec une particularité de cette ethnoclasse, la forte solidarité entre eux. Même s'ils se retrouvent parfois concurrents, c'est davantage la collaboration que la confrontation qui l'emporte, au détriment des consommateurs, car il n'y a pas de guerre de prix.
Tu nous dis quoi en vrai, là, qu'il y a une entente sur les prix ?
Pas forcément entente, mais plutôt une sorte de pacte de non-agression. Et même si certains secteurs leur échappent désormais, ils sont remplacés par des multinationales qui, elles aussi, profitent de leur position dominante.
J'imagine que c'est aussi l'une des raisons des fortes manifestations en 2009 en Martinique. La mainmise des béquets dans certains secteurs.
Oui, et on retrouve ce genre de manifestations dans les autres territoires. Non seulement la vie est chère, mais certaines entreprises, qui appartiennent parfois à d'anciens colons, en profitent du fait de leur position dominante et ça nourrit un fort sentiment d'injustice pour les populations concernées. Et quand on regarde objectivement la situation économique en Outre-mer, on ne peut pas vraiment leur donner tort. C'est clairement pas dans cet épisode qu'on va trouver les soi-disant bienfaits de la colonisation. Rendez-vous au prochain épisode de Splash. Pour jeter un pavé dans la mare, rien de mieux pour se muscler les idées. Splash est une émission d'Étienne Tabaille, co-animée avec Laurine Melka, produite par Nouvelles Écoutes. Réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, montée et coordonnée par Marine Rowe, mixée par Laurie Galligani. Pour vous pencher sur les études, les chiffres et références entendues dans l'épisode, ils sont à retrouver dans la description de l'émission et sur le site de Nouvelles Écoutes en vous rendant sur la page de Splash. Vous pouvez retrouver Splash sur Twitter, Splash Podcast tout attaché, et sur Instagram sous le même nom, Splash Podcast sans espace. Chers auditeurs et auditrices, n'hésitez pas vous aussi à nous poser des questions économiques dans les commentaires de l'émission sur Apple Podcast et je prends toutes vos bonnes idées contre 5 étoiles. À très vite.